profundo, ¿ok?
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló, oui?
Oui, qui est là? Je suis Nathalie Touchevaux. Bonjour Nathalie, vous ne pouvez pas dire, vous n'êtes pas obligée de dire votre nom de famille, hein, mais c'est pas de souci. On vous êtes peu nombreux, vous êtes deux ce soir.
Juste deux.
Oui, parce que j'ai quelqu'un qui voulait faire, mais elle sera celle de les trois prochaines, je crois. Ah, ça veut dire que Clara, vous êtes là?
Oui, je viens d'arriver. Bonjour, Caroline.
Bonjour Clara. Alors, mesdames, vous êtes deux, donc Nathalie et Clara.
Ah oui.
Voilà, donc ce sera bien, comme ça vous êtes en petit comité. Alors, je voulais demander l'une après l'autre. Alors, vous allez me dire comment vous vous sentez par rapport à l'envie de manger, puisque c'est le thème de ce soir, ou si vous êtes accro à quelque chose en particulier, et sur quoi vous mettez la cause de cette dépendance à soit un aliment en particulier ou à des choses sucrées, ou voilà. Donc je ne sais pas qui veut commencer.
Je peux commencer.
Oui, c'est qui parle?
C'est Nathalie.
Oui, allez-y.
Moi, c'est plus des sucreries à certains moments.
Oui.
Bon, ben, je pense que c'est suite à un choc.
Oui.
Donc, après une grossesse extra-utérine, j'ai donc eu ce souci au mois de février. Et à certains moments, donc quand j'ai un peu le cafard, bon, ben, j'ai envie de manger des sucreries ou.
C'est ça. Et c'est seulement depuis ce moment-là, vous n'aviez pas ça avant.
Non, je ne l'avais pas avant.
D'accord.
J'ai eu de temps en temps envie de manger des sucreries,
C'est ça.
mais là, c'est quand même plus fréquent.
Ok, parfait. Quand vous dites plus fréquent, c'est fréquent de quelle manière fréquent?
Ben, ça me le fera bien tous les jours,
Tous les
pouvoir manger
jours?
une sucrerie
Tous les
ou.
jours, mais combien de fois par jour?
Ça va me prendre en fin de matinée ou dans l'après-midi.
Fin de matinée, après-midi, ok. Alors, maintenant, le fait que vous ayez mentionné cette grossesse extra-utérine et le cafard et cette envie de manger, est-ce que vous avez envie de manger maintenant?
Là, non.
Pas du tout?
Pas du tout.
Ok. Et donc, à quel moment est-ce que comment est-ce que ça se déclenche?
Mais je pense que c'est quand je suis dans des émotions,
Ok.
quand je vais, je sais pas, dans de la tristesse,
Mais vous avez
le
l'impression que
cafard qui me soit arrivé, ça.
c'est ça, cafard. Ok. Alors vous m'avez, comme on est deux, hein, comme vous êtes deux, vous m'avez dit par mail donc votre âge et donc vous n'avez pas d'enfant, donc est-ce que vous voulez réessayer de tomber enceinte? Qu'est-ce qui se passe pour l'instant dans votre tête à ce sujet?
Ben disons que là, comme je suis pas mal dans les émotions, je me dis je peux pas prendre une décision tout de suite. Bon,
Ok.
c'est vrai que je me trouve un petit peu vieille pour faire un enfant maintenant.
Oui.
Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que j'avais une chance et que cette chance-là, elle est, comment dire,
Oui, vous avez l'impression que la chance est passée.
oui, c'est un peu ça. C'est un petit peu de l'injustice.
C'était une grossesse qui était désirée ou c'est venu par hasard?
Non, c'est venu par hasard.
Ah oui.
Et donc j'ai appris en allant voir la gynéco parce que j'avais les règles abondantes puis mal au ventre.
Mmh.
Et une grossesse extra-utérine qu'il fallait enlever tout de suite. Mmh. Tout avait éclaté dans le ventre.
Mmh.
Donc ça faisait beaucoup à gérer l'annonce de la grossesse. Je m'y attendais pas. En même temps, c'est porter la vie, porter la mort.
Oui.
C'est vrai que ça faisait beaucoup.
Ok. Très bien. Alors, en fait, comme vous êtes deux, je vais chaque fois prendre les informations chez l'une et l'autre, et puis on tapotera après, d'accord?
D'accord.
Alors, je vous remercie, Nathalie. Et Clara?
Oui, alors donc, moi, en fait, je me crois ni boulimique, ni désir de nourriture, ni accro au sucre, bien qu'étant en surpoids. Et donc, si j'ai envie de communiquer, en fait, en 88, donc ça fait déjà un bout de temps, mm-hmm. j'ai fait partie d'un groupe de travail avec des gens boulimiques.
Mm-hmm.
Et au bout de quelques séances, je me suis rendu compte que je faisais pas partie de ce monde.
C'est ça.
Alors, en fait, quand je vois les titres, en fait... je me sens pas concernée, mais comme j'ai un surpoids, je me dis peut-être qu'il y a que j'ai des réactions très inconscientes que je maîtrise pas.
D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moments où vous mangez de trop ou pas du tout?
Non, je suis pas du tout hyperphage. Donc, je mange normalement, plutôt raisonnablement.
Ok.
Est-ce que vous... des heures de repas quand j'ai faim, on va dire. Et en fait, aux heures qui à l'extérieur des repas, je ne grignote pas, je ne mange pas.
D'accord.
Et en fait, depuis très longtemps, j'organise mon repas autour d'un plat unique.
Oui.
Et
donc, vous vous demandez pourquoi vous avez trop de poids, parce que quelque part, vous n'avez pas l'impression que c'est lié avec la nourriture, c'est ça?
Voilà, exactement.
Ok.
Exactement. Et en plus, ayant connu à l'époque un garçon qui s'appelait Jean-Louis Yaïch, qui a écrit un bouquin sur l'excès de poids, mais lui, c'était un vrai boulimique, qui pouvait consommer 10 à 12 000 calories par jour. Et en fait, je ne sais pas après comment je suis trouvée en contact avec lui, il faisait des réunions où les gens parlaient, et je me suis vraiment rendu compte de ce qu'était la boulimie, et je ne me sentais pas du tout concernée par ça.
Très bien. Vous n'avez pas de problème de dépendance du tout?
Je crois pas, non.
Ok, donc fumer, boire?
Non, rien.
Rien du tout.
Non, je suis à l'eau claire et sans cigarette.
Pardon?
Je suis à l'eau claire et sans cigarette.
Ok. Alors, mais de toute façon, on peut de toute façon travailler là-dessus en même temps. Parce que vous avez trop de poids. Et ce problème de poids existe depuis combien de temps?
Depuis très longtemps, depuis mes 22-23 ans, où j'ai eu un gros problème avec mes parents qui n'acceptaient pas ma vie, on va dire, que je puisse avoir des relations de vie et de mon âge. Et c'est allé assez loin, puisque mon père m'a dit que je déshonorais la famille, enfin des choses
lourdes,
j'ai pris du poids.
Que vous étiez?
Que j'ai déshonoré la famille,
ah, oui.
Parce que j'ai une relation avec un garçon, bon. Et en fait,
je me suis finalement mariée
avec un garçon qui ne me correspondait pas du tout. Je suis restée 10 ans avec mon mari. Mm-hmm. J'ai eu mon fils.
Mm-hmm.
Et là, tous les mois, je prenais du poids.
En vivant avec ce mari?
Ah oui, c'est l'horreur.
Okay.
L'horreur absolue. Au bout de 2 ans, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, écoute, je peux pas te dire comment il faut faire, mais toi, tu sais pas faire. Et du jour où je l'ai quitté, je n'ai plus pris de poids.
Ah oui.
Et bon, pour le perdre, c'est autre chose, hein.
Ok. Mais ce que je veux savoir, c'est si quand vos parents vous ont dit tu as déshonoré la famille, c'était avec ce garçon-là ou un autre?
Non, c'est un autre homme.
Ok.
Mais bon, après, ils m'ont liquidé avec celui-là.
Ils vous ont liquidé de quelle manière?
Eh ben, en me mariant avec lui.
Ah, c'est eux qui vous ont marié avec lui?
Plus ou moins, c'est disons que j'ai découvert avec mon fils, donc 30 ans après, qu'au moment où sa grand-mère était en train de décéder, qu'elle aussi avait poussé à la roue pour que son fils m'épouse.
Ah oui. Donc.
Et je crois que nous, les jeunes, enfin mon ex-mari, je sais pas si il aurait eu vraiment envie de m'épouser au final. Et puis moi, c'était pas le cas, quoi. Mais je me suis trouvée un peu coincée.
Ok.
Donc pour moi, les prises de poids sont sur des chocs.
Oui.
Émotionnels, bien évidemment. Et c'est vrai que avec mon ex, les 10 ans que j'ai vécu avec lui, on était très désorganisés au niveau de la nourriture. Mmh. Et quand je l'ai quitté, je me suis posé des questions de comment dire, d'hygiène de nourriture. Et en fait, je me suis fait un système diététique que j'applique toujours.
D'accord.
Mais bon, évidemment, le sucre est au nid, mais bon, il m'arrive quand même de... Quand il y a une occasion et qu'il y a du sucre, ben je goûte les choses, j'essaie d'éviter la frustration.
Mm-hmm.
Je crois que je n'ai aucune dépendance.
D'accord, pas de problème. Eh bien, mesdames, on va tapoter. Alors Nathalie, je ne sais pas, vous l'avez déjà fait ?
Tapoter ? Oui,
oui, oui. Ok, parfait. Alors, comme j'ai eu des... Je ne sais pas si c'était Clara ou quelqu'un d'autre m'a dit par mail qu'après la téléclasse de démonstration, elle avait des bleus au point sensible. Donc, je vais vous conseiller de tapoter le point karaté avec votre dominant sur l'autre main, c'est-à-dire le tranchant de la main qui est ce tranchant quand on voit les karatékas qui cassent du bois, ben c'est avec le tranchant de la main. Donc, vous tapotez ce tranchant de la main et vous allez répéter après moi. Même si j'ai ce problème de poids...
Même si j'ai ce problème de poids.
Depuis que j'ai des chocs émotionnels.
Depuis que j'ai des chocs émotionnels.
Nathalie.
Depuis que j'ai des chocs émotionnels.
Ah oui. Vous répétez chaque fois les mêmes phrases toutes les deux, hein, parce que ça travaille pour l'une et pour l'autre. Donc, d'accord.
D'accord.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Et profondément.
Même et pareil pour Clara, même si j'ai des envies de manger.
Même si j'ai des envies de manger.
Nathalie, je vous entends pas, hein.
Même si j'ai des envies de manger.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Pareil pour toutes les deux, hein. Donc vous répétez chaque fois après moi. Même si j'ai ce cafard, qu'il me soit arrivé cette grossesse extra-utérine.
Même si j'ai du cafard qui m'est arrivé cette grossesse extra-utérine,
je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si j'ai envie de manger quand je suis dans les émotions.
Même si j'ai envie de manger quand je suis dans les émotions.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement
et profondément.
Même si j'ai ce problème de poids depuis au moins 22-23 ans.
Même si j'ai ce problème de poids depuis au moins 22-23 ans.
Et surtout depuis que mon père m'a dit « tu as déshonoré la famille ».
Et depuis que mon père m'a dit « j'ai déshonoré la famille ».
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Ok, le dessus de la tête, ce problème de poids.
Ce problème de poids.
Début du sourcil, ce problème de poids.
Ce problème de poids.
Coin de l'œil, ce problème de poids.
Ce problème de poids.
En dessous de l'œil, ce problème de poids.
Ce problème de poids.
En dessous du nez, le jour où j'ai quitté ce mari.
Le jour où j'ai quitté ce mari.
J'ai arrêté de prendre du poids. En dessous de la bouche, je prends du poids quand j'ai des chocs émotionnels. Nathalie, vous ne répétez pas ?
J'ai répété, je prends du poids quand j'ai des chocs.
C'est bizarre parce que je ne vous ai pas entendu juste avant, donc si je dois chaque fois, il vaut mieux que vous répétiez en même temps que Clara plutôt que je vous fasse répéter après, ou bien c'est parce que vous étiez en muet, je ne comprends pas.
Pourquoi vous m'entendez là ?
Oui, je vous entends normalement, mais je ne vous entends pas toujours, c'est pour ça que je pose la question.
Attendez, je vais mettre le téléphone plus en face.
Ok. Clavicule, je prends du poids quand je suis dans les émotions.
Je prends du poids quand je suis dans les émotions.
En dessous des bras. Je prends du poids quand j'ai des chocs émotionnels. J'ai envie de manger quand j'ai des émotions.
J'ai envie de manger quand j'ai des émotions.
Le dessus de la tête. Ce problème de poids à cause de mes parents.
Ce problème de poids à cause de mes parents.
Début du sourcil. Ce problème de poids avec ce mari. Coin de l'œil. Ce problème de poids depuis le mois de février. En dessous de l'œil, tout ce cafard. En dessous du nez. J'ai porté la vie, j'ai porté la mort.
J'ai porté la vie, j'ai porté la mort.
En dessous de la bouche. Je ne m'y attendais pas. Clavicule. Je me suis souvent trouvée un peu coincée. En dessous des bras, tous ces chocs émotionnels. En dessous des seins, ça me donne envie de manger. Le dessus de la tête, ça me fait prendre du poids. Début du sourcil, parce que je garde tout pour moi. Coin de l'œil, ce problème de poids. Et si je pouvais guérir de ce problème de poids? En dessous du nez. Et si je pouvais faire la paix avec ce qui est arrivé en février? En dessous de la bouche. Et si je pouvais faire la paix avec tous mes chocs émotionnels? Clavicule, ce problème de poids. Ce choc émotionnel. Ok. Maintenant, vous respirez profondément. Et puis, je vais demander à l'une, d'abord à Clara, et puis après à Nathalie. Donc, comment vous vous sentez depuis qu'on a tapoté?
Un peu mieux.
Alors, ce que moi je voudrais bien vous demander, c'est si vous avez un événement, donc quand vous dites depuis 22-23 ans, quand vous parlez du problème avec vos parents, est-ce qu'il y a une scène précise où votre père vous dit « tu as déshonoré la famille » ?
Oui, ça s'est d'abord passé avec ma mère en fait. Ah. Ma mère qui a cherché dans ma chambre, je ne sais pas si elle imaginait qu'elle allait trouver ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé une enveloppe de pilules et puis ça a été le drame, quoi.
Ah oui.
Et mon père a surenchéri là-dessus.
Quand vous... Et vous aviez quel âge?
22, je crois. Ce qui paraît assez aberrant, en fait. Oui. Mais enfin, bon.
Ok. Et quand vous dites la surenchéri là-dessus, c'est-à-dire, elle vous a fait une scène et lui en a fait une ensuite ou tout s'est passé?
Non, il a sorti ces mots qui m'ont quand même perturbé pendant pas mal d'années.
Oui.
Aujourd'hui, ça glisse un peu, ça glisse en fait, parce que bon, le temps est passé et puis bon.
C'est ça.
J'ai fait ce que je voulais de ma vie et puis j'ai rencontré un homme que j'ai, avec lequel j'ai vécu et... Et enfin, un homme qui me correspondait.
C'est ça. Mais je voudrais que si vous fermez les yeux et que vous repensez à votre père qui dit « tu as déshonoré la famille ».
De toute façon, mon père était très, très rigide.
Mm-hmm.
Après son décès, en fait, il est venu me voir un jour dans un rêve pour me dire qu'il était très rigide.
Ah oui.
Si donc, vous... Mais je suis un peu débarrassée de ça. Tout ça, évidemment, c'est l'origine de prise de poids pas logique. Mais bon, je pense plus que il y a eu pendant des années, c'était très présent et très angoissant cette.
Moi, je voudrais vous demander si vous fermez les yeux et si vous revisualisez votre père qui vous dit ça, est-ce que avec toute la tonalité, sa manière, est-ce que ça vous donne encore une intensité émotionnelle maintenant?
Non, c'est passé.
C'est ça,
heureusement que c'est passé.
Ok, donc si vous fermez les yeux et vous le voyez et l'entendez vous dire ça, c'est 0 sur 10.
Ça me fait plus d'effet, c'est comme s'il parlait à une autre.
Ok, très bien. Donc ça c'est 0 sur 10, on est d'accord?
0 sur 10, tout à fait, oui.
Oui, ok.
Ça m'a perturbé pendant au moins une décade. Hein.
Oui, mais je vous crois. Et votre mère qui fait le drame aussi, ça n'a pas de problème, quand vous repensez à elle qui
couche. Je crois que finalement, tout ce que j'ai pu travailler sur les conflits avec ma mère, ils ne sont pas à zéro. Hein.
Ah, donc elle, vous avez plus de problèmes quand vous l'imaginez, elle, faire le drame de trouver l'enveloppe de pilules.
Ah ben, elle l'a trouvée par ma présence, dans ma poubelle, Et puis juste le jour où je l'ouvrais, en fait. Et en fait, oui, j'ai peut-être plus de problèmes avec elle, parce que d'abord, c'est une relation de femme à femme.
Ok, attendez, excusez-moi. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment précis par rapport à cette enveloppe de pilules, donc pas sur une théorie de... Je suis d'accord, hein, merci, c'est à jamais très facile. Mais ce que je voudrais savoir, parce qu'en général, les perturbations énergétiques qui provoquent éventuellement une prise de poids, donc si vous vous souvenez de ce moment avec votre mère...
Donc, j'étais pas présente, elle a trouvé ces pilules, oui. Puis elle m'a appelée dans sa chambre.
Oui.
Et en fait, moi, j'étais assise, elle s'est trouvée allongée.
Oui.
Et elle m'a dit, comment tu as pu me faire ça, toi la petite fille que j'ai tant chérie.
Okay.
En fait, quelque part, quand je réfléchis à nouveau à ça, ou quand j'ai réfléchi, peut-être que quand elle m'a dit la petite fille que j'ai tant chérie, et je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en m'ayant envoyée chez ma grand-mère, comme elle a fait à 2 ans, je suis pas d'accord avec l'amour qu'elle dit m'avoir donné.
Ok. Si vous pensez donc à ce souvenir où elle... Vous êtes assise et elle est allongée et elle vous dit ça. Quelle est l'intensité émotionnelle que vous avez sur mon échelle de 0 à 10?
Ah ben 15 sur 10. Hein.
Un 15 sur 10. Et c'est quoi comme émotion? Colère?
Si c'est de la colère, c'est pas de la colère violente comme...
Alors c'est quoi qui est à 15 sur 10?
Ah ben c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est une révolution. Ah. Alors, est-ce que c'est de la colère
À mon avis, ce qui est le plus proche de la révolution, c'est la colère, c'est pas la paix.
Non, c'est clair. Non, c'est clair. Mais il me semblait que la colère et la colère vis-à-vis d'elle, est-ce que j'ai la colère vis-à-vis d'elle? Je sais pas.
Oui.
C'était de la colère, mais quel genre de colère?
Ah, ben écoutez, c'est pas important. Avec l'EFT,
d'accord,
ça suffit de savoir qu'il y a une révolution à l'intérieur à 15 sur 10.
Ah oui, ça c'est clair.
Ok, merci Clara. Nathalie?
Oui.
Pour vous, quand vous repensez à ce qui s'est passé au mois de février, c'est le moment où la gynécologue vous dit qui est le plus dur?
C'est avant l'opération.
C'est avant l'opération, c'est-à-dire?
Ben, c'est partir au bloc opératoire.
Mmh.
Avec cette peur de même de mourir.
Ah. Pourquoi vous avez eu peur de mourir?
Parce qu'elle m'avait dit que j'avais une hémorragie interne importante dans le ventre.
Mm-hmm.
La trompe avait éclaté et ça avait donc répandu le sang dans le ventre.
Mm.
Donc j'avais pris conscience de la gravité.
Mm.
Donc moi, ça me choquait, c'est de porter en même temps et la vie et la mort, et surtout la mort, puisque là, il fallait... enlever l'embryon.
C'est ça.
Mais j'avais également peur de ne pas me réveiller de l'opération.
Mmh.
D'ailleurs, je me suis très très mal réveillée de l'opération.
Ah oui, si vous aviez peur avant, ça c'est sûr. Ok. J'ai eu exactement la même chose que vous, mais beaucoup plus jeune, et puis j'ai eu 2 enfants après, mais de la même manière, et je ne me suis absolument pas rendu compte de la gravité. J'ai sauté de joie de savoir que je pouvais être enceinte, puisque ça faisait 3 ans que j'essayais. Donc,
Aviez quel âge?
Mais j'avais 30 ans. J'avais 30 ans. Donc, mais j'étais comme vous, la trompe a éclaté et donc je pense que mon ex-mari a cru que j'allais mourir et parce que peut-être à lui on a parlé de gravité, parce que moi je suis allée en urgence parce que j'avais été voir un gynécologue qui n'avait absolument pas vu que je faisais une grossesse extra-utérine. Donc on va tapoter. Donc c'est le moment où vous êtes en route vers sur le lit et qui bouge, c'est ça? C'est à ce moment-là?
Ben, elle m'a opérée le mercredi matin, je suis rentrée le mardi soir, moi.
C'est ça.
C'est quand toute cette attente qui était terrible.
Ah, c'était l'attente. C'est quand vous êtes dans la chambre et que vous attendez?
Voilà, où je me fais du souci,
okay.
J'ai peur de ne pas me réveiller.
Ok. Et quand vous repensez à ce moment où vous êtes dans la chambre, peur de ne pas vous réveiller, vous seriez une intensité émotionnelle de combien sur 10? 0 étant pas d'intensité du tout. Et le maximum, je dis 10, il y en a qui disent 15 sur 10, donc pour vous dire, voilà. À combien vous êtes si vous repensez à ce moment où vous êtes dans la chambre?
Ben moi, je vous dirais 100.
Ok. D'accord.
Parce parce que l'intensité, elle était plus que maximum, là.
Ok. Comment vous appelleriez ce moment l'attente?
Oui, l'attente.
Oui. Et Clara, comment vous appelleriez ce moment avec votre mère où elle est allongée sur ce lit et qu'elle vous dit, soi-disant, qu'elle vous attend, chérie? Comment vous appelleriez ce moment?
Quel genre de qualificatif vous attendez?
Un titre pour avoir un mot qui rassemble tout ce que vous ressentez.
Avec le décalage du temps, j'aurais envie de dire un non-moment, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans la vie, qui est...
Et vous appellerez comment ça?
Un non-moment, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun sens, aucune logique.
Ok, vous l'appelez un non-moment?
Un non-N-O-N, moment, oui.
Oui, oui, N-O-N, j'ai bien compris. Pas de problème, eh bien, on va tapoter. Alors, est-ce que quand vous avez pensé, je voudrais redemander encore à Clara, quand vous repensez à ce non-moment, est-ce que vous avez des sensations dans votre corps? Même question pour Nathalie, je vous demanderai la réponse après. Si vous voyez votre mère.
En fait, oui, je crois que je frissonne encore un peu.
D'accord. Et Nathalie, vous avez une sensation dans votre corps?
Oui, au niveau du cœur, ça me fait taper le cœur.
Taper le cœur, ok. Très bien. Alors, point karaté, même s'il y a eu ce non-moment.
Même s'il y a eu ce non-moment.
Et l'attente.
Et l'attente.
Et l'attente.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si je frissonne.
Même si je frissonne.
Et ça tape dans mon cœur.
Et ça tape dans mon cœur.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même s'il y a eu l'attente.
Même s'il y a eu l'attente.
Et ce non-moment.
Et ce non-moment.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Ok, le dessus de la tête. Ce non-moment.
Ce non-moment.
Début du sourcil. Cela me fait frissonner encore.
Cela me fait frissonner encore.
Coin de l'œil, quand elle me dit, comment tu as pu me faire ça?
Comment tu as pu me faire ça?
La petite fille que j'ai tant chérie.
La petite fille que j'ai tant chérie.
En dessous de l'œil, je sens une révolution à l'intérieur.
Je sens une révolution à l'intérieur.
En dessous du nez, je sens une révolution à l'intérieur.
Je sens une révolution à l'intérieur.
En dessous de la bouche, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord.
Clavicule, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord.
En dessous des bras, le moment, l'attente.
Le moment, l'attente.
En dessous des seins, l'attente.
L'attente.
Le dessus de la tête, ça me fait taper le cœur.
Ça me fait taper le cœur.
Le début du sourcil, l'attente.
L'attente.
Coin de l'œil, j'avais peur de mourir.
J'avais peur de mourir.
En dessous de l'œil, j'avais peur de ne pas me réveiller.
J'avais peur de ne pas me réveiller.
En dessous de l'œil, j'avais pris tellement conscience de la gravité.
J'avais pris tellement conscience de la gravité.
En dessous, j'avais pris tellement conscience de la gravité.
J'avais pris tellement conscience de la gravité.
Clavicule, je faisais une hémorragie interne importante.
Je faisais une hémorragie interne importante.
Et en dessous des bras, et mes pensées s'affolaient. En dessous des seins, et j'ai mon cœur qui tape quand je repense à l'attente.
Mon cœur qui bat quand je repense à l'attente.
Le dessus de la tête, et je frissonne quand je repense à ce non-moment.
Et je frissonne quand je pense à ce non-moment.
Le début du sourcil, comment tu as pu me faire ça?
Comment tu as pu me faire ça?
Coin d'œil, la petite fille que j'ai tant chérie.
La petite fille que j'ai tant chérie.
En dessous de l'œil, cette colère.
Cette colère.
En dessous du nez, cette colère.
Colère.
En dessous de la bouche, cette révolution en moi.
Cette révolution en moi.
Clavicule, mais je n'ose rien dire. En dessous des bras, je dois juste accepter tout ce qu'elle dit.
Je dois juste accepter ce qu'elle dit.
En dessous des seins, et ça me révolte.
Et ça me révolte.
Le dessus de la tête, je ne trouve pas qu'elle m'ait tant aimée. Le début du sourcil. Toutes ces sensations. Coin de l'œil, toutes ces émotions. En dessous de l'œil. Et sans doute, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. en dessous du nez, même quand elle m'a mis chez les grands-parents.
Même quand elle m'a mis chez, chez mes grands-parents.
En dessous de l'œil, même quand elle m'a dit ça.
Même quand elle m'a dit ça.
Clavicule. Ou alors, elle se mentait à elle-même.
Ou alors, elle se mentait à elle-même.
En dessous des bras. De toute façon, elle faisait du mieux qu'elle pouvait.
De toute façon, elle faisait du mieux qu'elle pouvait.
En dessous des seins, toute cette colère.
Toute cette colère.
Au-dessus de la tête, toute cette peur.
Toute cette peur.
Début du sourcil, cette peur de mourir.
Cette peur de mourir.
Coin de l'œil, cette peur de ne pas me réveiller. J'ai pris conscience de la gravité.
J'ai pris conscience de la gravité.
Cette attente interminable. Ça me tape le cœur. Clavicule. Et si je pouvais être calme. En dessous des bras. Et si tout ça s'était passé depuis longtemps. En dessous des seins. Et si c'était passé depuis longtemps. Au-dessus de la tête. Et si je pouvais être en paix avec ce moment. Le début du sourcil. À ce moment-là, j'ai fait du mieux que je pouvais. Coin de l'œil, avec ma manière de réagir. En dessous de l'œil, je me pardonne d'avoir eu peur. En dessous du nez, je me pardonne de ne rien avoir dit. En dessous de l'œil, je me pardonne d'avoir tant été en colère. Clavicule, je me pardonne. En dessous des bras, je me pardonne. En dessous des seins, je me pardonne. Ok. Et vous respirez toutes les deux profondément. Ok. Clara, est-ce qu'on est... Si vous refermez les yeux.
Oui.
Nathalie, vous refaites la même chose. Clara, vous fermez les yeux et vous réécoutez votre mère qui vous dit « Comment tu as pu me faire ça, la petite fille que j'ai tant chérie ?» Est-ce que vous êtes toujours à 15 sur 10 ?
Non, pas du tout. Je dois être vraiment un petit chiffre. En fait, j'arrive à lui pardonner sur le moment et à être, je vais dire, plus mûre qu'elle.
C'est intéressant, ça, quand même, comme changement.
Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, je crois que si ce n'est de la colère, c'est de la révolte que j'ai à ce moment-là.
Ok. Alors, avec cette révolte, si vous dites le chiffre de la révolte maintenant est à combien sur 10?
Entre 1 et 3.
Ok.
Même pas 3, 1 et 2, 1 ou 2.
Oui, 1, 2 sur 10. Ok. Et si vous, donc vous fermez les yeux, vous voyez ces images, qu'est-ce qui vous révolte encore tant? Elle me dit, la petite fille que j'ai tant chérie, et dans le sens, à l'intérieur, vous dites, mais moi, je pense pas, c'est pas vrai, ça. Je me sens pas chérie, c'est ça.
D'une part, et puis bon, elle me reproche quand même d'avoir couché avec un garçon, ce qui paraît le summum de l'impossible et de l'inconcevable. Et en fait, moi, je pense que c'est simplement un acte de vie. Et oui. Ça, elle est à côté de la plaque. Hein.
Mmh, oui, c'est ça.
Surtout que mon père, alors, il y a en trois mots, il a conclu le truc. Ma mère, elle a dû me bassiner pendant, je sais pas, au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, facile. Et cette position, en fait, elle s'est allongée dans sa chambre et moi, je suis assise. Et je trouve déjà la situation est déséquilibrée.
Oui.
C'est pas logique, c'est...
Mm. Ok, merci. Nathalie ?
Oui ?
Quand vous repensez à ce moment, l'attente, est-ce que vous êtes toujours à 100 sur 10 ?
Non, j'ai beaucoup moins. J'ai eu de la tristesse vers la fin. Je me suis mis à pleurer et je ne pouvais plus dire les phrases.
Ok, d'accord. Vous avez eu de la tristesse de quoi exactement ?
De repenser à ce qui m'était arrivé.
Mmh. Mais, donc ça veut dire que vous ne pensiez plus à ce moment-là en particulier. Vous pensiez plus au fait d'avoir perdu l'enfant. Du coup, c'était plus le moment où vous étiez dans cette chambre le soir en train d'attendre ou bien si ? C'est de la tristesse de vous voir avoir peur.
Non, j'étais plus dans la peur, là, et la peur de partir me faire opérer. C'est vers la fin, le dernier tour que vous avez fait.
C'est ça.
Je pouvais plus dire les phrases, je me suis mis à pleurer, là.
C'est ça. Si maintenant je vous demande de fermer les yeux.
Oui.
Et vous revoyez ce film, l'attente, vous êtes dans la chambre, là. Quand vous revoyez les images, c'est de la tristesse qui vient ?
Oui, c'est plus la peur, c'est de la tristesse.
Ok, la tristesse est à combien sur 10?
Peut-être 5.
Oui. Et c'est la tristesse de quoi exactement?
Je pense que c'est la tristesse de perdre cet enfant.
Ok.
De ne pas avoir su mener à terme cette grossesse.
Ok. Parfait. On va tapoter, mesdames. Alors, même si je sens de la révolte en moi.
Même si je sens de la révolte en moi.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si j'ai de la tristesse.
Même si j'ai de la tristesse.
D'avoir perdu cet enfant.
D'avoir perdu cet enfant.
Et de ne pas avoir su mener à terme cette grossesse.
Et d'avoir pas su mener à terme cette grossesse.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si j'ai toutes ces émotions. Je m'accepte totalement et profondément. Ok, le dessus de la tête, toutes ces émotions.
Toutes ces émotions.
Le début du sourcil, cette révolte.
Cette révolte.
Coin de l'œil, cette tristesse.
Cette tristesse.
En dessous de l'œil, cette révolte.
Cette révolte.
En dessous du nez, je ne me sens pas chérie.
Je ne me sens pas chérie.
Le clavicule. Elle me reproche d'avoir couché avec un garçon.
Elle me reproche d'avoir couché avec un garçon.
En dessous des bras, alors que c'est un acte de vie. En dessous des seins, elle m'a bassiné pendant une demi-heure.
Elle m'a parlé pendant une demi-heure.
C'est vous qui avez utilisé bassiné, hein. C'est pour ça que j'ai osé dire ça. Moi, je suis assise.
Je ne l'ai pas entendu.
Vous avez dit qu'elle vous avait bassiné pendant une demi-heure.
Oui, d'accord. Donc, c'est vrai. Tout à fait.
Elle m'a bassiné pendant une demi-heure. Oui. Le dessus de la tête. Elle est allongée et moi, je suis assise. Début du sourcil. C'est une situation déséquilibrée. Quand je me revois, je me sens triste. En dessous de cette tristesse de perdre cet enfant. En dessous du nez, cette tristesse de ne pas avoir su mener à terme cette grossesse.
En dessous de la bouche,
cette tristesse de ne pas avoir été chérie. Clavicule, cette tristesse de ne pas avoir été aimée comme j'aurais eu envie.
Cette tristesse de ne pas avoir été aimée comme j'aurais eu envie.
En dessous des bras, cette révolte qu'elle est revendiquée, cet amour. En dessous des seins, elle allongée et moi assise. Le dessus de la tête, elle me reproche d'avoir couché avec un garçon. Au début du sourcil, quel comble. Coin de l'œil, le reproche d'un acte de vie. En dessous de l'œil, cette tristesse. Le dessous du nez, cette tristesse. En dessous de la bouche, cette tristesse de perdre un enfant. Clavicule, cette tristesse de ne pas avoir su mener à terme cette grossesse.
Cette tristesse de ne pas avoir su mener à bien cette grossesse.
En dessous des bras, je me pardonne. En dessous des seins, et si je pouvais lui pardonner. Le dessus de la tête, et si elle faisait du mieux qu'elle pouvait en tant que mère. Le début du sourcil, et si moi j'avais fait du mieux que je pouvais. Et si je pouvais me pardonner. En dessous de l'œil, Le reste de cette révolte. En dessous du nez, c'est pas facile d'être mère. En dessous de la bouche, c'est pas facile d'être la fille d'une mère. Clavicule,
c'est pas facile d'être la mère d'une fille.
En dessous des bras, j'ai fait du mieux qu'elle pouvait.
Elle a fait du mieux qu'elle pouvait.
J'ai fait du mieux.
J'ai fait du mieux
que je pouvais. J'ai fait du mieux que je pouvais. Petit la tête. Et elle aussi, sans doute. Le début du sourcil. Je me pardonne. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je me pardonne. En dessous du nez, à quoi ça sert de m'en vouloir. En dessous de la bouche, j'ai fait du mieux que je pouvais. Clavicule. Le reste de cette révolte. En dessous des bras, le reste de cette tristesse. En dessous des seins, le reste de cette tristesse. Ok. Maintenant, je vais vous demander, Nathalie, si vous revoyez ce moment l'attente. On était à 5 sur 10 de tristesse. À combien vous êtes maintenant?
J'ai plus rien.
Vous avez plus rien? Bah, c'est super.
C'est très bien.
Pardon?
Puis c'était le fait de se pardonner, je pense, qui m'a fait du bien.
Oui.
Mais si, parce que je dois me culpabiliser.
Oui. Mais surtout si vous avez dit, je n'ai pas pu mener à terme cette grossesse, donc quelque part, vous vous reprochiez, quoi.
Oui, mais je pense que je me reproche beaucoup.
Ah.
Parce que c'est quand vous avez dit ces mots-là que ça m'a soulagée.
D'accord.
J'ai pardonné, puis j'ai fait du mieux que je pouvais.
Oui. Ok. Merci. On passera à quelque chose juste après, hein, autre chose. Et vous, Clara?
Alors, effectivement, le fait de pardonner, c'est important parce qu'en fait, moi, j'ai fait des travaux et une fois, des travaux dits holistiques, mais chacun met le qualificatif qu'on veut. Mm-hmm. En régression, j'ai pardonné à ma mère, je lui ai donc pardonné à elle, et en fait j'ai beaucoup pleuré, tout en étant en régression, j'avais les yeux fermés et ça dégoulinait quand c'était pas possible, mais finalement, dans ce travail, je ne m'étais pas pardonnée.
À vous, c'est ça?
Non, ouais. Je ne faisais que pardonner à l'autre.
Oui, c'est ça.
Et je pense que se pardonner, c'est aussi excessivement important.
Je suis très d'accord avec vous. Moi, je pense que quand on en veut à quelqu'un, c'est le reflet de quelque part, une manière qu'on s'en veut à soi et qu'on projette ce qu'on s'en veut à soi sur l'autre.
Ça, sur l'autre, oui.
Oui. Et donc, moi, j'ai remarqué, mais que parfois, c'est le meilleur média pour pouvoir se pardonner, c'est d'abord de commencer à se rendre compte qu'on est d'abord fâché sur l'autre et puis parfois, on se rend compte après qu'on s'en veut à soi.
C'est ça, c'est sûr.
Donc, on commence par l'autre et puis tout d'un coup, quand je commence à dire je me pardonne, les gens se rendent compte à ce moment-là qu'ils s'en voulaient à eux ou qu'ils se reprochaient quelque chose.
C'est
quoi.
Le principe de dire si l'autre changeait, ça lui ferait du bien. Mais si on change, forcément, on a une vision très différente de l'autre.
Exactement. Alors maintenant, je voudrais vous demander par rapport à votre problème de poids, un autre moment que vous pensez qui pourrait en être la cause. Et je vais demander à Nathalie, par rapport à cette grossesse extra-utérine maintenant de février, est-ce qu'il y a d'autres moments autour de, en dehors de cette veille d'opération, que vous pensez qu'ils sont nécessaires de traiter maintenant?
C'est quand ma mère m'a abandonnée à l'âge de 3 mois.
Ah.
Je devais avoir un vide intérieur. Et à l'époque, c'était des grands-parents qui m'élevaient, mais bon, ça n'avait déjà pas été des parents puisqu'ils avaient vendu leur fille.
Pardon?
Ils me disaient que je mangeais tout le temps de la bouillie, j'avais tout le temps envie de manger.
Attendez. Vous avez dit juste avant que quelqu'un avait vendu leur fille.
Les grands-parents qui m'ont élevée,
oui.
Mes grands-parents,
oui.
Avaient vendu ma mère,
oui.
À des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants.
Ah.
Et ma mère, quand j'avais 3 mois, elle m'a laissée chez ses grands-parents, là.
C'est ça. D'accord. En fait, elle s'est fait quelque part abandonner par ses parents, et puis elle vous a abandonné, vous, après.
Voilà.
Ok. Donc, il y a un thème de l'abandon, quand même, hein. Et je pense que Clara en a un aussi, si je ne m'abuse.
Oui, mais chez ma chère grand-mère, c'est sûr, oui. Deux ans, oui.
Oui. Alors, Nathalie, Donc ça veut dire qu'avant votre grossesse extra-utérine, vous pensez qu'il y a eu quand même des causes de votre poids qui précédaient cette grossesse extra-utérine?
Vous voulez dire la cause viendrait de l'abandon?
Ah, en général, mais vous me dites que vous n'avez pas eu de problème de poids avant la grossesse extra-utérine?
Non, le problème de manger, là j'ai pris 3 kilos, oui. Mais j'ai pris 3 kilos au niveau du ventre, des fesses, oui, depuis la grossesse extra-utérine.
C'est ça. Mais avant ça, vous n'avez jamais eu de problème de poids?
Quand j'ai fait de la dépression, mais peut-être les médicaments, parce que oui. Quand j'avais arrêté les médicaments, j'avais reperdu du poids.
C'est ça. Mais donc sinon, vous n'avez pas eu de problème de poids avant?
Non, avant la dépression, non. Et la dépression, je suis un peu ronde, je suis pas mince, hein, maigre, oui. Maigre.
C'est ça. Donc, ok, et donc vous pensez qu'une des causes qui peut être plus profonde serait cet abandon que vous avez eu à 3 mois?
Oui, je pense.
Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous l'avez pris comme un abandon, mais qu'est-ce que vos grands-parents, et qui étaient vos parents adoptifs, en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Mais ils ne s'occupaient pas de moi, ils me laissaient tout le temps dans un lit.
Ah.
Et c'était, mon oncle, à l'époque, qui avait peut-être 15 ans, qui, oui. Quand il rentrait de l'usine, me changeait, s'occupait de moi.
D'accord.
Mais les grands-parents eux-mêmes, mon grand-père était alcoolique, il rentrait, il était sous, il tapait la grand-mère, c'était de la violence dans la famille.
Ok.
Je pense que j'ai été complètement démolie à cette époque-là.
Ok. D'accord.
Parce que manger, c'est combler un vide.
Oui. Et elle vous a dit que vous mangez beaucoup de bouillie, c'est ça?
Voilà.
Et le vide, vous en êtes conscient de temps en temps encore ou pas?
Pardon?
Vous dites manger, c'est combler un vide. Vous avez l'impression qu'il y a un vide à combler?
Oui. Avant de manger, je me sens comme un vide à l'intérieur de moi.
Ok. Ok. Très bien. Alors, je voudrais demander à Clara, on a un petit peu travaillé sur cette histoire d'abandon lors de la téléclasse précédente.
Oui. Alors, donc là, on est plutôt... Enfin bon, j'ai pas particulièrement envie de remonter là, surtout que ça n'a jamais provoqué de problème d'excès de poids, surtout pas dans ma petite enfance. Mm-hmm. En fait, mes problèmes de poids, des problèmes de poids, j'en ai eu à 10 ans, 17 ans, 22 ans, c'est ce qu'on a vu.
Oui.
Et après, de 24 à 26, quand j'ai épousé mon ex-mari, mmh. Et là, ça a été assez dramatique.
C'est ça. Et à 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je ne sais pas si j'ai eu des problèmes émotionnels, je n'en ai pas souvenir, mais j'ai quand même pris du poids. J'étais assez ronde, 10-12 ans, on va dire. Est-ce que c'est un rapport avec la puberté? J'étais pubère très très jeune, j'avais 11 ans quand j'étais pubère. Et... en fait, et ça s'est résorbé.
C'est ça.
Donc je pense plutôt à des causes plus ou moins hormonales, surtout que ma mère n'avait pas tellement de dialogue à ce sujet. Mmh. Et...
c'est ça. Et à 17 ans,
j'ai eu mes règles pour la première fois, elle m'a dit, mais je t'ai déjà parlé de ça. Elle m'en avait parlé, j'avais 8 ans, on parlait, j'ai percuté quand j'avais 8 ans.
D'accord.
À 17 ans, c'est l'époque du bac, quand j'ai passé le bac à 17 ans. Et alors là, j'ai même fait une crise qui avait été diagnostiquée comme une crise d'appendicite.
Mm-hmm.
Donc j'avais le proviseur de mon lycée qui avait prévu, après l'opération de l'appendicite, de m'emmener en ambulance pour passer les épreuves écrites du bac et tout, enfin un truc pas triste.
C'est ça.
Et finalement, j'ai eu mes règles et tout s'est mis dans l'ordre. En fait, c'est une crise ovarienne.
Ah oui.
Et là, je m'étais bien arrondie quand même. Ça s'est résorbé.
Mm-hmm.
22 ans, ce choc où j'ai pris 10 kilos, je ne sais pas si je les ai vraiment perdus.
Mm-hmm.
Et alors, le drame, c'est entre 24 et 26 ans. Je me suis mariée à 24 ans. Et alors, quant à moi passé, donc, il arrive qu'au moment des règles, on prenne 1 ou 2 kilos. ça, moi j'en prenais deux et je ne les perdais pas.
C'est ça.
Au bout d'un an, c'est catastrophique. Au bout de deux, je vous dis pas.
J'ai bien compris.
Et donc alors, mais le problème, c'est que j'ai toujours cet excès de poids et j'ai même fait une analyse suite à ça.
Oui.
Et en fait, qui a duré 5 ans, je suis pas sûre que j'ai perdu beaucoup de poids. Et
vous avez perdu beaucoup de poids lors de l'analyse?
Non, non, enfin, peut-être une dizaine de kilos de quoi prendre mon fils. Comme j'en ai 50 en trop,
c'est ça.
J'ai fait sur un excès de poids, mon gamin. Et alors, en conclusion, moi, je l'ai toujours dit, sur les problèmes de poids, j'en ai 20% à moi, il y a 40% à ma mère et 40% à mon ex-mari.
C'est ça.
Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas résolu les problèmes.
Attendez, hein. Alors.
Et alors, je suis montée jusqu'à 116 kilos, et j'ai toujours dit 116, 116, c'était un peu, voilà.
Alors, je voudrais savoir si vous avez aussi cette sensation parfois de combler un vide ou pas du tout.
Dans l'excès de poids?
Donc en fait, votre poids, il est venu plutôt, si j'ai bien compris, de manière hormonale.
Moi, je pense, oui.
Parce que vous avez eu ça à la puberté, puis à 17 ans, au moment de
bac,
vous faites une crise ovarienne.
Voilà, oui.
Bon, à 22 ans, là, il y a plutôt une crise avec vos parents.
Ah mais, oui, grave, oui.
Oui, et puis entre 24 et 26, enfin, ça a un rapport avec...
Ah ben, oui, je mettais sur la balance. Si au moment des règles, j'en avais un ou deux de plus,
oui.
Je partais pas. Et donc, le mois d'après, je l'ai cumulé avec ceux du mois précédent.
C'est ça. Donc, il y a quelque chose à voir quand même. Si, enfin, moi, je fais des associations. C'est,
Oui, c'est clair. Pour moi, c'est sûr, j'ai un problème hormonal. C'est oui. Évident.
C'est-à-dire, il y a hormonal et puis il y a peut-être aussi sur la reproduction, faire l'amour.
C'est possible, tout est possible.
Oui, ok. On va tapoter, mesdames. Alors, même si je ne suis pas sûre de la cause de mon poids.
Même si je ne suis pas sûre de la cause de mon poids.
Mais il y a peut-être l'abandon.
Mais il y a peut-être l'abandon.
Et des problèmes hormonaux.
Des problèmes hormonaux.
Des problèmes hormonaux.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même s'il y a un thème d'abandon dans la famille.
Même s'il y a un thème d'abandon dans la famille.
Et pas que de l'abandon. Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si ma mère m'a abandonnée.
Même si ma mère m'a abandonnée.
Et j'en souffre peut-être encore aujourd'hui. Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si je me suis sentie démolie à cette époque-là. Et avant de manger, je sens toujours un vide à combler. Je m'accepte totalement et profondément. Même si je grossis depuis mes problèmes de puberté. Ben oui, mais c'est très joli. On peut utiliser les deux.
Parfait.
Donc même si je grossis depuis mes problèmes de liberté et de puberté. Je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a un lien direct entre mon poids et mes hormones. Entre les relations sexuelles et mon poids. L'autorisation ou l'interdiction. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'en attribue 20% à moi.
La cause de 20% à moi.
40% à ma mère.
40% à ma mère.
40% à mon ex-mari. Donc il y a une partie qui ne m'appartient pas. Je m'accepte totalement et profondément. Et si je pouvais leur rendre ce qui ne m'appartient pas?
Génial. Et si je pouvais leur rendre ce qui ne m'appartient pas?
Et si je pouvais leur rendre leur thème d'abandon?
Et si je pouvais leur rendre leur thème d'abandon?
Et leurs interdictions?
Et leurs interdictions.
Et la manière de déshonorer les autres?
Et la manière de déshonorer les autres.
Tout en les honorant et tout en les respectant.
Tout en les honorant et en les respectant.
Mais je ne veux plus porter sur moi.
Et je ne veux plus porter sur moi.
Et dans mon poids.
Et dans mon poids.
Ce qui ne m'appartient pas.
Ce qui ne m'appartient pas.
Ok, le dessus de la tête. Ce thème de l'abandon.
Ce thème de l'abandon.
Ce thème de l'interdiction.
Ce thème de l'interdiction.
Tous ces thèmes d'interdiction de liberté.
Tous ces thèmes d'interdiction de liberté.
En dessous de l'œil, je me suis... Ma mère m'a abandonnée.
Ma mère m'a abandonné.
En dessous du nez. Ma mère m'a abandonné. En dessous de la bouche. J'étais si petite. Clavicule. Et ce auprès duquel elle m'a abandonné.
Et ce auprès duquel elle m'a abandonné.
L'avait abandonné avant. En dessous des seins. Je me suis sentie abandonnée. Le dessus de la tête. Je me suis sentie démolie à cette époque-là. On me laissait tout le temps toute seule. Coin de l'œil. Lui était alcoolique.
Il tapait la grand-mère.
En dessous du nez. Je sentais un vide à combler. Et encore aujourd'hui, je sens un vide à combler avant de manger. Clavicule. Tout ce poids que je prends à chaque moment où je suis une femme. En dessous des bras. Tout ce poids que je prends dès que j'ai commencé à être femme.
En dessous des seins.
Dès que j'ai été pubère, j'ai commencé à prendre du poids. Le dessus de la tête. À 17 ans, j'ai fait une crise ovarienne. Le début du sourcil. Tous ces problèmes hormonaux. Coin de l'œil. Ces problèmes de reproduction. En dessous de l'œil, cette interdiction de faire l'amour et de faire des actes de vie.
Toutes ces interdictions de faire l'amour et de faire des actes de vie.
En dessous du nez, chaque fois que je suis femme. Et que j'ai mes règles. Et que je ne suis pas heureuse en ménage. Je prends des kilos. À chaque mois, je prends des kilos. Et mon corps les a gardés. En dessous des bras, ça symbolisait ma colère contre ce mariage. Ou cette mésunion. Le dessus de la tête, toutes ces causes hormonales à mon poids. Le début du sourcil, ce poids de toutes les contraintes parentales. Coin de l'œil, ce poids de toutes les interdictions parentales. En dessous de l'œil, il y a énormément de ce poids qui ne m'appartient pas. En dessous du nez, toute une partie leur appartient. En dessous de la bouche, qu'il s'agisse d'abandon ou d'interdiction. Cela ne m'appartient pas. En dessous des bras, et si je pouvais leur rendre? En dessous des seins, j'ai envie de leur rendre. Le dessus de la tête, j'ai envie de leur rendre avec tout le respect et l'honneur que je leur dois.
Le respect et l'honneur que je leur dois.
Début du sourcil, je leur dois la vie quand même. Coin de l'œil, et je les remercie pour ça. En dessous de l'œil, mais je leur rends tout ce qui me dérange et qui ne m'appartient pas. Je leur rends tout ce qui me dérange et ce qui ne m'appartient pas.
Je leur rends tout ce qui me dérange et ce qui ne m'appartient pas.
Leurs problèmes de reproduction. Leurs problèmes de célébrer la vie et faire l'amour.
Leurs problèmes de célébrer la vie et de faire l'amour.
En dessous des bras, leurs problèmes d'abandon.
Leurs problèmes d'abandon.
Leurs problèmes de déshonneur.
Leurs problèmes de déshonneur.
Leurs problèmes de bonne alliance ou mésalliance. Je choisis de me libérer de tout ça.
Je choisis de dépoussiérer tout ça.
En dessous du nez. Et si je pouvais me sentir libre? Et si je pouvais m'occuper de cette petite que j'ai été? Clavicule, la soutenir et lui donner l'autorisation.
La soutenir et lui donner l'autorisation.
De célébrer la vie. D'être heureuse d'être une femme. Et qu'il ne faut pas s'alourdir à chaque signe de féminité.
Il ne faut pas s'alourdir à chaque signe de féminité.
Et je choisis de soutenir cette petite en moi. Début du sourcil. Qui a dit que c'était dur d'être une femme? Pour qui c'était lourd d'être une femme? En dessous, je choisis de me libérer de tout ça. En dessous, je choisis de me libérer de tout ce thème d'abandon dans la famille.
Ça, c'est super, cette phrase.
Ok, vous allez respirer profondément toutes les deux. Alors, je veux savoir comment va Clara et puis Nathalie.
Eh ben, elles sont bien, mieux, bien, bien. Non, c'est sûr que il y a des phrases et des intentions, donc effectivement, ce livre de dire et de, en fait, auxquelles j'avais pas forcément pensé.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que j'étais plutôt dans l'analyse des causes et des choses comme ça, mais pas dans le moyen de résoudre, et surtout pas comme vous le faites là, quoi. Même en parlant que des mots.
C'est ça. Mais c'est sûr qu'on est surtout habitué à... La société, l'éducation favorise le cerveau gauche et le raisonnement.
C'est ça.
Tandis qu'ici, quand on tapote, on est plutôt dans les émotions, on est dans autre chose.
Ok. Donc, tout est dit là, tout est fait d'ailleurs.
C'est ça. Et donc, comment vous vous sentez physiquement comme ça quand on tapote sur ces thèmes? Parce que c'est quand même assez clair dans votre cas, Clara, que c'est vraiment très fort lié à toutes ces. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de quand on dit dans votre famille que ça ne va pas à 22 ans faire l'amour, je trouve ça quand même un peu dur, même si c'est vrai
C'est de l'obscurantisme, c'est moyenâgeux. Hein.
Oui, c'est ça. Donc forcément, vous avez dû sentir ça pour moi assez tôt, inconsciemment. Que vous avez senti déjà au moment où vous deveniez plus belle.
Ah oui, d'accord, les premiers symptômes à 10-17 ans.
Ça, mais même à 10 ans, quand vous êtes pubère, il y a quelque chose...
Oui, parce qu'être pubère à 11 ans, je vais vous dire, c'est pas marrant. Les filles, quand elles sont pubères à 14 ans, c'est mieux quand même. Elles sont un peu plus vieilles et puis bon, elles sont plus dans leur corps de femme ou d'adolescente.
Parce que vous avez dit, c'est hyper jeune.
Hein.
Oui, en plus, vous avez dit, elle vous en a parlé une fois quand vous avez 8 ans.
Et puis après, c'est tabou,
donc il y a vraiment quelque chose de lourd.
Ah oui, non, mais ma mère, elle n'était pas... Claire avec tout ça. Alors avoir une fille et aider une fille, c'est compliqué après. Hein.
Ah voilà.
C'est pour ça que globalement, par le raisonnement, je n'en veux pas, mais par les émotions, c'est énorme, quoi.
Oui. Quand vous dites une fille, c'est compliqué après, qu'est-ce que vous avez entendu à ce sujet?
Pardon, vous avez dit quoi là?
Que, que, c'est, que, qu'est-ce qu'on vous avait entendu? Parce que vous dites, une fille, c'est compliqué après. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous avez entendu sur ce sujet?
J'ai entendu... Ah ben non!
Votre mère, elle a dit quoi après?
C'est dans une éducation. Vous savez, dans la France, dans les relations sexuelles, on les envoyait en maison de correction.
Ah, ah oui, parce que y a une partie que je n'ai pas entendue.
En 70, avec...
Qui est-ce qu'on envoyait dans les maisons de correction?
Les filles.
Ah oui.
Sexuelles, on les mettait en maison de correction. Moi, je connais une fille, un médecin, homéopathe. Elle a jamais eu de...
Il y a quelque chose, il y a un problème sur la ligne. Allô?
Oui, parce que j'entends, ça coupe moi aussi. Oui. J'entends pas bien, Clara.
Ah oui, moi je comprends pas. Et je l'entends plus du tout d'ailleurs. On est... Alors...
Je l'entends plus moi non plus.
Oui, moi je l'entends plus là. Allô Clara? Attendez, est-ce que je vais prendre mon petit mode d'emploi parce que normalement, comme on est en semaine, il devrait y avoir quelqu'un dans un opérateur.
Elle va peut-être appeler.
Oui, je sais pas. Oui, mais je trouve ça bizarre quand même qu'on est totalement... On l'a totalement perdu, là. Hein. Je n'entends pas.
Moi, ça faisait assuré. Je l'entendais pas.
Ah, voilà. Vous êtes de retour, Clara? J'ai entendu un bruit. Alors, je vais parler avec un opérateur. Une petite seconde, hein.
Oui, allez-y.
Ah. Allô? Nathalie, vous êtes toujours là?
Oui, oui, je vous entends.
Ah oui, mais moi j'ai fait 0, 0, et non, étoile 0. Ah, pardon. Étoile 0. Allô? Bon. Non, ça n'a pas d'étoile.
Elle va peut-être appeler sur votre portable.
Allô?
Allô?
Oui, je vous ai perdu entre-temps.
Ah oui, oui, vous étiez en train de me parler, puis ça s'est arrêté.
Il y a quelqu'un qui m'a appelé, et alors le téléphone, là, je suis chez un opérateur, ça m'énerve au possible, j'entends pas qu'on m'appelle. C'est pas moi qui décide de décrocher ou pas, mais la personne s'impose.
Ah bon, ben c'est ça. Ah, ça c'est embêtant.
Alors donc, ça m'est plusieurs fois arrivé d'avoir la personne qui m'appelle que j'entends au détriment de celle que j'avais avant en ligne.
Ah oui, mais normalement, vous pouvez demander à votre opérateur d'enlever ce programme.
Ben, ce que je ferai, parce que c'est vraiment très pénible.
Ah oui. Donc, vous me disiez que les filles, on les mettait dans les maisons de correction, et puis vous avez commencé à parler d'un médecin, et puis voilà, je...
Oui, donc c'est une femme médecin que je connais, qui a 85 ans aujourd'hui, qui n'a jamais eu de vie sexuelle, et en fait, d'abord, elle ne voulait pas se marier, encore une histoire parentale, encore autre chose, et en fait, elle avait peur de ça. Dans la France, d'entre-deux-guerres, on mettait les filles en maison de correction.
Oui, mais vous n'avez pas 85 ans maintenant, Clara?
Non, mais mon histoire, elle est différente. Je raconte simplement.
Oui, oui, bien sûr.
Il y a des femmes qui ont aussi eu une pression différente à un âge plus avancé que le mien.
C'est ça. Oui, et chez vous, on ne parlait pas des relations sexuelles. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de tabou.
Moi, quand ma mère m'a parlé de choses, quand j'étais adolescente, elle m'a dit, ben, tu rencontreras un garçon et tu te marieras avec lui. Comme si le mariage était la panacée. Ouais. Mais moi, pour moi, le mariage, ça a été une catastrophe. Ouais. En tout cas, dans ma relation avec mon mari.
Oui, oui.
Après, okay. J'ai rencontré un homme, c'est autre chose. Autre chose, c'est un homme.
D'accord.
Déjà.
Ok, super. Je vais demander à Clara maintenant, comment vous vous sentez après ce tour de tapotement?
Eh bien, totalement bien. Et en fait, c'est pas dit que je recommence pas toute seule ce genre de choses.
Attendez.
Avec des phrases un peu dans le sens des vôtres, mais à moi.
C'est ça. Et ça, c'est Clara.
Oui, c'est hyper positif. Hein.
Oui, ça, c'est Clara qui parle.
Oui, 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 okay. Je crois que vous m'aviez parlé.
Oui, oui, j'ai demandé à Nathalie, moi. Mais c'est pas grave, c'est très bien. De toute façon, on refera un tour sur la complexité d'être une fille et la complication que c'est après. Nathalie, vous êtes toujours là?
Oui, oui, oui.
Ah oui, d'accord.
Je croyais que c'était à Clara, moi je répondais pas, c'est pour
ah,
ça.
Ah oui, ben, très bien, alors j'ai même pas dû dire Nathalie.
Vous avez fourché, en voulant dire Nathalie, vous avez dû dire Clara.
Bah, voilà. Alors Nathalie, comment ça s'est passé maintenant, ce dernier tour?
Mais là, je me suis sentie très bien, c'est quand vous avez dit la phrase que on se libérait de tout ça, de
voilà,
ce fait
d'abandon. Ce sont des mots quand même très importants, dépoussiérer, liberté... Ce mot liberté, effectivement, on l'accorde aux autres, mais se l'accorder, c'est plus compliqué.
Mmh. Et donc, Nathalie, quand vous pensez maintenant à ce thème de l'abandon chez vous, si vous y repensez maintenant par rapport à ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, comment vous vous sentez?
Mais ça me stresse plus du tout. Ça ne donne pas d'émotions négatives qui me rendent pas bien, qui me fait taper le cœur.
D'accord.
Je peux en parler, je suis à zéro, là.
D'accord, super. Et donc,
ça m'a plu, c'est je le rends ce qui ne m'appartenait pas. Peut-être aussi, c'est le poids.
C'est ça, oui, oui, bien sûr. Oui.
Moi, je crois que demain, je vais aller déposer une valise sur des tombes.
Eh ben oui.
Okay.
Déposer le poids qui appartient pas. Mais ça, c'est... Honnêtement, je n'avais jamais pensé, pourtant.
Ben oui, mais c'est ça, parce que dans votre cas, Clara, je trouve que c'est beaucoup plus clair, mais j'ai constamment, enfin constamment, je dirais pas tout le temps, mais j'ai souvent dans des cas de personnes qui gardent du poids et qui mangent pas tellement.
Et ben j'ai, c'est ça, oui.
Et j'ai et même dans les vidéos de Gary Craig, il a un exemple d'une dame avec qui il a travaillé, elle explique qu'elle a fait un jeûne de un mois, donc elle a jeûné pendant un mois, donc elle a bu que de l'eau, et après un mois, elle n'avait pas perdu un gramme. Donc,
eh bien oui, ce qui prouve que
voilà,
quand c'est bloqué, c'est bien noué. Hein.
C'est ça. Ça veut dire que ce qu'on garde comme poids parfois, ou ce qu'on garde en soi, le poids au figuré se traduit de manière au propre, quoi.
C'est ça, oui, oui, d'accord.
Donc, c'est pour ça que je pense que chez vous, comme vous dites, ça n'a pas tellement un rapport avec le fait de manger.
Non.
C'est ce poids d'être femme qui visiblement, et qui est même beaucoup dans le non-dit, si je comprends bien, même s'il y a eu quand même...
Oui, dans le tabou,
oui, tout à
100%
fait.
Tabou. Hein.
Oui, d'accord.
De toute façon, dans ma famille, avec mes parents, tout était tabou. On ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de politique, on ne parlait surtout pas de sexe. Donc c'était vraiment une éducation très triste. Et en fait, l'année que j'ai passée chez ma grand-mère toute petite m'a ouvert des horizons que j'ai gardés, en fait.
C'est ça. Vous m'avez dit ça la dernière fois.
Voilà, oui. Voilà.
Alors, je voudrais demander à Nathalie, parce que je sais ce qu'on peut tapoter pour Clara le tour suivant. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être encore une autre cause de votre poids? Nathalie, hein, je demande.
En plus de l'abandon?
Oui, ou qu'est-ce que vous... Si vous pensez à l'abandon, est-ce que vous avez encore des images qui peuvent vous revenir?
Pas assez d'amour, non aimé.
C'est ça. Et de qui vous n'avez pas été aimé?
De mes parents.
À partir de quand vous avez retourné chez vos parents? Quand vous dites chez vos parents, c'est de vos papa et maman ou bien de vos grands-parents?
Non, de mes parents. Ils m'ont repris quand ils ont eu ma sœur. Oui. Et j'ai jamais pu savoir la date. J'ai essayé de leur demander. Et ça a fait une véritable catastrophe dans la famille. Parce que j'osais leur demander combien de temps j'étais partie. Mais j'avais besoin de comprendre mon histoire.
Évidemment.
C'est pas pour les juger. S'ils avaient fait ça, bon, ils étaient peut-être dans un schéma qui reproduisait.
Oui.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est le nombre de mois ou d'années où j'étais partie.
Oui.
Et toutes les photos que j'ai, c'est toutes des photos chez mes grands-parents. J'ai aucune photo avec mes parents. Parce qu'eux, ils m'ont dit qu'ils m'ont repris quand j'avais un an et demi.
C'est ça.
Et j'ai aucune photo de mes parents, moi. Je me rappelle de rien du tout quand j'étais petite.
Oui.
Et donc, je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle même pas de la maternelle.
Vous avez de la chance, moi je me rappelle pas avant 11 ans, donc... Alors,
mais donc, c'est bien d'avoir des souvenirs enfants quand même.
Oui. Pas, donc vous n'avez pas assez d'amour dans le sens expliquez-moi, il vous regardait pas, il vous prenait pas dans les bras, c'est quoi ce pas assez d'amour?
Ils étaient tout le temps après moi à m'engueuler, à dire que je faisais pas bien, que j'étais différente des autres enfants de la famille. J'étais comme, bah d'ailleurs, ils disaient tout le temps, elle c'est le canard boiteux de la famille.
Oh, magnifique.
Et c'est des mots qui, ça pop ça chez un enfant.
Évidemment. Surtout si on vous dit ça tôt.
Okay. Et là, bon, dernièrement, ma mère, donc, quand elle m'a vue chez des amis, à 2 semaines de suite, elle est venue, elle m'a fichu une baffe pour dire bonjour.
Quand ça?
Mais c'était il y a même pas un mois de ça.
Elle vous fait encore des baffes maintenant?
Voilà, et là j'ai dit, mais maintenant ça suffit, j'ai 45 ans, je suis plus une gamine. Ah. Et je veux plus me laisser faire.
Oula.
Et bon, ben ça crée une polémique.
Mais non. Comme si c'était normal qu'on vous foute une baffe à 45 ans.
Mais c'est-à-dire que je leur ai gâché la vie, parce qu'ils aimaient s'amuser, profiter de la vie. Et bon, moi je suis arrivée là, c'est sûr que ben, un enfant ça pleure, ça a besoin d'exprimer ses sentiments, et je devais les déranger. Donc je pense que c'est une rancune par rapport à ça.
Oui, mais ils ont quand même eu votre sœur après, donc ils ont quand même continué dans ce sens-là. Hein. Mais enfin, vous étiez
oui,
la preuve.
Pour eux, bon, ben, il n'y avait pas de contraception à l'époque, il y a 45 ans.
Oui. Ok. Parfait, on va tapoter. Est-ce que le fait donc d'avoir d'être ronde vous pèse?
Oui, ça par veut rapport dire quoi? Au physique ou au moral?
Au moral.
On va dire ni l'un ni l'autre, mais je vais vous dire, quand j'étais avec mon ami, on s'est bien entendu, il y avait quand même une sorte de symphonie des sphères entre nous. Je me suis demandé au début pourquoi il venait vers moi alors que j'étais bien ronde. Mmh. Et en fait, je me suis fait à cette idée. Bon. Et puis un jour, ça monte à 10 ans, il m'a dit, si tu perdais du poids, ça serait génial pour le fun. Bon. Et je lui dis, ben écoute, sors-moi des sous, je vais me faire opérer. Bon. J'en ai resté là. Mmh. Et ce garçon, alors donc... on parle pas de ses problèmes à lui, évidemment. Il est tombé, il est tombé en 97 aussi, donc il faut croire que tout était un peu lié dans sa tête, et le problème, c'est lui, plus que moi, je vais dire, impuissance.
Oui.
Alors, on a vécu 3 ans comme ça, c'est pas évident.
Mmh.
Totalement impuissant. Et moi, comme j'avais fait cette réflexion, je lui dis, ben écoute, maintenant, tu débrouilles avec ton problème.
Okay.
Donc, je vais tourner le dos.
Ah oui.
Très très dur à vivre, et il s'est trouvé une copine simplement pour la bagatelle, on va dire. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a pas beaucoup plu. Il est parti avec des pilules de Viagra. Bon, et en fait, je suis en mesure de totalement lui pardonner, mais je me suis mis dans ma tête, il faut que j'arrive à perdre du poids quelque part pour le récupérer, on va dire.
Mm-hmm.
Et aussi pour moi.
Et donc,
en fait, socialement, je vais où je veux, quand je veux, sans aucun problème.
C'est ça. Mais ça vous a pesé seulement à partir du moment où vous vous êtes dit que c'était une manière de le récupérer?
Non, quand même, l'excès de poids, on ne vit pas avec un excès de poids de 50 kilos facilement.
Ok, donc ça vous pèse, c'est ça que je vous demande.
Mais bon, je me lève pas et je suis pas... Parce que moi, je vois des personnes qui ont un excès de poids, mais qui peuvent même pas vivre.
Oui, moi, je vous demande si ça vous pèse, simplement. Et si ça vous pèse, à combien sur 10 ça vous pèse?
6 sur 10.
Ok. Et vous, Nathalie?
Moi, c'est par rapport à mes sœurs qui sont très, très, très minces.
Mm-hmm.
C'est la différence dans la famille.
Ah oui.
D'entendre, ben elle est comme la grand-mère. C'est souvent que j'entends, elle est grosse, pourtant je suis pas grosse.
Mm.
C'est par rapport à mes sœurs.
Ok. Donc ça vous pèse à combien sur 10?
10, le maximum, 10.
Ok. D'accord. On va tapoter. Même si j'ai ce problème de poids.
Même si j'ai ce problème de poids.
Et ça me pèse.
Et ça me pèse.
Et ça me pèse.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si je suis trop ronde à mon goût ou à leur goût.
Même si je suis trop ronde à mon goût ou à leur goût.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Et j'ai l'intention d'accepter mes rondeurs.
Et je...
J'ai l'intention d'accepter mes rondeurs. Même si ça me pèse d'avoir ce poids. Et surtout par rapport à mes sœurs. Je m'accepte totalement et profondément. Même si les causes de mon poids ont un rapport avec ma famille. Je m'accepte totalement et profondément. Même si les causes de mon poids ont un rapport avec les tabous de ma famille. Où beaucoup de sujets étaient tabous. Je m'accepte totalement et profondément. Ok. Le dessus de la tête. Ce poids me pèse. Le début du sourcil. Ce poids me pèse. Coin de l'œil. En dessous de l'œil. Les causes de mon poids. En dessous du nez. Être une fille dans ma famille, c'est compliqué. En dessous de la bouche, être une fille dans ma famille, c'est compliqué. Clavicule, surtout après. En dessous des bras. Les relations sexuelles pour les filles, c'est interdit. En dessous des seins. Parce qu'à l'époque où j'étais jeune fille. Le dessus de la tête. On mettait les jeunes filles en maison de correction si elles faisaient l'amour. Au début du sourcil. Chez moi, tout ce qui entourait le sexe et la puberté.
Chez moi, tout ce qui entourait le sexe et la puberté.
Coin de l'œil, c'était totalement tabou.
C'était totalement tabou.
En dessous de l'œil. Ma mère m'avait vaguement parlé de la puberté quand j'avais 8 ans.
Ma mère m'avait vraiment parlé de la puberté quand j'avais 8 ans.
En dessous du nez. Et puis j'ai eu mes règles à 11 ans. En dessous de la bouche. Mais il y avait des tas de sujets tabous à la maison. Clavicule. Elle n'a même pas parlé des relations sexuelles. En dessous des bras. Quand j'avais 15 ans, elle m'a dit « Ben, tu rencontreras un garçon ».
Quand j'avais 15 ans, elle m'a dit, tu rencontreras un garçon.
Le dessus de la tête, et tu te marieras avec lui. Début du sourcil, on ne parlait pas de la sexualité. Coin de l'œil. Tout ce poids que j'ai pris à cause de cette sexualité. Et le fait d'être une fille dans cette famille. En dessous de l'œil. Et si je pouvais me libérer de tout ce poids. En dessous de la bouche. Et retrouver cette liberté d'adolescente. Clavicule. Ils ne sont plus là maintenant pour m'embêter. En dessous des bras. Et si je pouvais me libérer de toutes ces causes. En dessous des seins. Il n'y a pas eu assez d'amour. Le dessus de la tête. Je n'ai pas eu assez d'amour. Début du sourcil. Et quelque part, je ne me sens pas assez aimable. Coin de l'œil. J'en ai conclu que je n'étais pas assez aimable.
J'en ai conclu que je ne suis pas assez aimable.
En dessous de... S'il ne m'aimait pas assez.
S'il ne m'aimait pas.
En dessous du nez, c'est que je vais... Il y avait quelque chose qui n'était pas bon en moi.
Et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon en moi.
Dans ma famille, on disait c'est le canard boiteux de la famille.
Dans ma famille, on dirait c'est le canard boiteux de la famille.
Clavicule, ils étaient tout le temps après moi.
Ils étaient tout le temps après moi.
En dessous des bras, tout le temps en train de m'engueuler.
Tout le temps en train de m'engueuler.
En dessous des seins. Je leur ai gâché la vie.
Je leur ai gâché la vie.
Le dessus de la tête. Et j'en ai conclu qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi.
Et j'en ai conclu qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi.
Début du sourcil. Un enfant, ça pleure.
Un enfant, ça pleure.
Coin de l'œil, ça dérange les parents.
Ça dérange les parents.
En dessous de, et j'en ai conclu que je n'étais pas assez aimable. En dessous du nez, j'en ai conclu que je n'étais pas aimable du tout, peut-être. En dessous de la bouche. Parce qu'ils m'ont quand même abandonné pendant un an et demi. Clavicule. Et s'ils m'avaient aimé à leur manière. En dessous des bras. Et s'ils avaient fait du mieux qu'ils pouvaient. En dessous des seins. Et si c'est moi qui avais interprété leur comportement. Au-dessus de la tête. Comme si je n'étais pas assez aimable. Début du sourcil. Et si je m'étais trompée à mon sujet. Coin de l'œil. Et si j'avais fait les mauvaises conclusions. En dessous de l'œil. Même s'il ne savait pas m'aimer comme j'aurais voulu qu'il m'aime. En dessous du nez. Je suis quand même aimable. En dessous de la bouche. Et si je pouvais m'aimer comme j'aurais voulu qu'il m'aime. En dessous des bras. Et si j'étais aimable après tout. En dessous des seins. Et même plus que ça. Voilà. Pour respirer profondément.
Ça fait du bien.
Ah ben oui, tout à fait. C'est les mots et les points justes. Oui, ça libère.
C'est ça. Alors, il y a des choses que j'ai pas tout dit, mais par rapport, comment vous sentez que vous êtes libérée? Je vais demander à Nathalie d'abord.
Mais quand vous disiez le mot libérée ou... Si on n'était pas aimé à la façon, qu'on aurait voulu.
Oui.
C'était des mots qui libéraient.
C'est ça. Ok. Alors, j'ai juste j'ai juste pas fait un petit bout. Et vous, Clara?
Eh bien, en fait, c'est le principe de reprendre à sa charge ce qui n'a pas été fait dans la réalité. Mmh. C'est donc de se sentir assez aimable, de s'aimer soi quand on pense qu'on n'a pas été aimé comme on aurait voulu, qu'en fait, et qu'en fait, ils ont aimé à leur façon.
Tout à fait. Et donc... je veux savoir quand vous pensez au fait que votre poids, vous m'avez dit ça vous pèse à 6 sur 10. Est-ce que vous êtes toujours à 6 sur 10? Et c'est OK si vous l'êtes, hein, parce que je ne l'ai peut-être pas adressé spécifiquement. Hein.
C'est-à-dire c'est pas 3 kilos hein, que j'ai. Alors en fait, je ne pense pas que ça peut bouger comme ça. Il faudrait que je pense que je répète... Il me semble que peut-être dans la répétition des points, du travail sur les points et tout, ça peut peut-être... c'est difficile de bouger mentalement quand on s'est quelque part pas habitué au kilo, mais qu'on est obligé de vivre avec. Donc je me dis, ben, ils sont là, je ne vais pas m'angoisser avec ça. Surtout qu'ayant fait l'analyse des choses, ce n'est pas le problème de de nourriture qui sont à la base.
C'est ça. Et donc, si c'est pas le problème de nourriture, à la limite, ça va être plus facile à régler.
J'aime entendre ça.
C'est ça.
C'est génial.
C'est ça. Mais donc, quelque part, ce qui vous pèse, c'est de vous dire, mais il y en a beaucoup à perdre, c'est ça? C'est parce que c'est 50 kilos que vous voulez perdre, c'est ça?
Eh ben oui, ben ça serait une bonne chose. Je sais pas si je pourrais y arriver compte tenu de mon âge et que, en fait, mais bon, je perds n'importe quoi, ça m'arrange. Je suis ravie. Et dans des conditions normales, parce que quand j'ai fait mes 6 mois d'hôpital, ça fait 3 ans, les médecins, ils vous parlent pas des choses en direct, hein. C'est un monde assez particulier. Mm-hmm. Mais j'ai bien compris au bout d'un certain temps qu'ils me mettaient sur la balance et tout ça. Et je suis devenue anorexique. Je mangeais plus et même quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai mis presque 6 mois à 9 mois pour me réalimenter correctement. D'accord. Ah oui, j'ai perdu 20 kilos. Mais il faut voir la tête que j'avais. Mm-hmm. Alors ça m'intéresse pas quelque part. Je suis sortie de l'hôpital malade.
Ok.
Donc, et quelque part, je pense que ces kilos, je les perdrai. Okay. Mais bon, peut-être D'accord. que c'est là un moment... Il y a des choses qui ont été dites, des phrases que vous avez prononcées qui me plaisent et auxquelles je n'avais pas pensé. Sur des intentions. Oui, c'est ça que le poids, j'ai toujours dit, il y en a 20% à moi, 40% à ma mère, 40%. Mais je ne pensais pas, effectivement, que je pouvais m'en délaisser faisant un travail mental, c'est-à-dire, s'ils ne sont pas à moi, je les enlève. Mm-hmm. Je les rends aux autres. Mm-hmm. Et comme il y a une partie du cerveau qui ne fait pas la différence entre c'est vrai et imaginaire...
Oui. Donc c'est surtout ce qui symbolise le poids que vous allez rendre en fait. Hein.
Le mot symbole aussi me plaît tout à fait.
Oui. Alors je vais demander à Nathalie. À Nathalie.
Oui.
Oui. Oui. Alors vous, votre poids, vous avez dit que ça vous pesait à 10 sur 10.
Ben là j'ai plus rien. S'ils disent. C'est le canard boiteux, elle est ronde, t'as vu par rapport à ses sœurs, je m'en fous.
D'accord, super.
Mais c'est génial.
Ça ne fait plus rien.
Donc, je voudrais que vous toutes les deux, vous imaginiez mentalement, Nathalie, de vous voir plus mince, alors soit je ne sais pas si c'est en nombre de kilos ou en... ou en, de vous voir simplement moins ronde. Pareil pour Clara, si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez avec... Alors, soit vous voyez la balance et vous voyez 3 kilos de moins, soit vous vous voyez vous-même avec des petits plis en moins ou des rondeurs en moins, je ne sais pas si c'est au ventre, dans quel endroit de votre corps. Et quand vous
Moi,
imaginez...
c'est mon ventre.
Oui, et quand vous imaginez ça... Qu'est-ce qui est possible ou est-ce que c'est pas possible? Ou par exemple, je dis Nathalie, est-ce que si vous perdez votre ventre, ça veut dire... parce que le ventre, ça veut dire que c'est un peu comme si vous étiez un peu enceinte. Et comme vous avez perdu ce bébé, c'est peut-être que ça symbolise quand même une grossesse, même si j'ai pas de vrai bébé à l'intérieur. Est-ce que c'est OK de perdre ce ventre?
Ah oui, c'est vrai ça. J'avais pas de ventre avant.
C'est ça.
Mais le problème, c'est que j'arrive pas à les perdre. Okay. J'arrive pas à perdre ce ventre.
Mais oui.
Et je vais pas ressembler à ma mère qui a un ventre.
Ok. Mais vous vous rendez compte que vous avez ce ventre depuis cette grossesse?
Ah oui, oui, oui. Mais je me dis, mais comment ça se fait? Je suis pas enceinte que j'ai ce ventre.
Oui.
C'est mon cerveau ou quoi qui...
Oui, oui. Mais le fait que vous aviez un problème avec la perte de cet enfant, c'est que quelque part, le ventre l'a gardé. Vous comprenez symboliquement? Le ventre peut garder l'enfant symboliquement.
Ah, et le ventre grossit.
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous, une partie de vous a envie de cet enfant et d'être enceinte.
Ah oui, ben ça me parle bien ce que vous dites là.
Ah, hein? Donc c'est comme si vous faisiez une grossesse nerveuse quelque part.
Ah oui, oui, oui. Ben, ça me parle drôlement, ça.
Ah oui. Donc,
eh ben,
donc
je voudrais bien le perdre, ce ventre.
Oui. Vous aimeriez perdre le ventre, mais vous aimeriez quand même un enfant aussi.
Oui, mais est-ce que je suis pas trop vieille?
Ah, j'ai un ami qui a été... qui est né... enfin, sa mère avait 46 ans quand elle l'a eu. Donc... et elle pensait qu'elle allait plus tomber enceinte. Ben voilà. Alors, oh. Est-ce que je suis pas trop vieille? Je note, hein.
Oui, moi, c'est ça qui m'ennuie. C'est d'avoir le ventre tout gonflé, quoi.
Mm-hmm. Oui, si vous n'aviez pas de ventre gonflé avant, c'est pour moi très fort lié à la grossesse, hein. Parce que moi, j'ai du ventre, mais j'en ai toujours eu. Donc, je veux dire, même jeune, j'étais très mince, mais avec une petite boule au ventre, quoi. C'est comme ça. OK, on va tapoter. Allons, je vais demander à Clara, si vous perdez, fermez les yeux et que vous y avez imaginé des kilos en moins, soit sur votre balance, ou en vous...
Moi, en fait, je suis à terme.
C'est-à-dire?
Eh bien, j'ai un ventre de femme enceinte à terme.
Ah oui, c'est ça.
Alors, depuis la naissance de mon fils, je suis comme ça, je suis restée avec un ventre énorme, qui prouve bien qu'il y avait d'abord, après la naissance, un problème hormonal.
Oui.
Et puis, bon, je suis restée comme ça. Et je ne sais pas si vous connaissez Claudia Rainville, qui a fait un bouquin sur la métamédecine.
J'ai entendu parler, mais je ne connais pas le livre.
Et en fait, je suis allée au Québec dans un stage qu'elle faisait. Donc, en fait, c'est un travail un peu par régression et puis par... Et surtout, elle travaille beaucoup sur les émotions. Et en fait, on était un groupe d'une dizaine de personnes et elle a pris les gens individuellement. Et le jour où je suis allée travailler avec elle, en fait, j'ai dit, ben ça y est, c'est le jour de mon accouchement. Et j'ai dit ça publiquement, tout le monde rigolait, tout ça. Mais bon, j'ai toujours essayé les mêmes kilos, les mêmes trucs. Donc, ce qui veut dire que, en plus, elle travaille de façon intéressante, mais un peu simple. Il y a des problèmes complexes, elle les appréhende pas si bien que ça.
Et quand vous dites, vous avez ce ventre d'une grossesse à terme, ça veut dire que vous n'aimiez pas perdre cet enfant de votre ventre, vous n'aimiez pas accoucher?
Ben, quelque part, j'étais très bien dans ma grossesse. J'ai pas vraiment pris beaucoup de poids. J'ai pris 9 kilos pendant ma grossesse, qui n'est pas énorme, que j'ai perdu à la naissance de l'enfant. Donc ça, tout ça était positif, sauf que je l'ai fait sur un excès de poids. Au niveau hormonal, je pense que d'avoir porté mon fils, c'était pas si mal que ça.
Mmh.
Bon, alors j'ai désiré un enfant tout de suite après. Et de toute façon, comme j'ai eu le premier au bout de 7 ans de mariage, j'avais pas à me refarcir 7 ans mon ex-mari, alors que à la naissance du gamin, j'étais tellement invisible que j'ai décidé de me séparer de lui. Et je sentais même que le gamin me disait, bon, les mamans, maintenant, c'est le moment de tire-toi, parce que c'est le moment de sortir de cet enfer.
Mais donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, que votre ventre est resté comme ça par rapport à... Quelle est votre lecture?
Pour moi, c'est sûr, c'est le désir d'une deuxième grossesse qui a été présent pendant très longtemps.
Oui.
Et que mon ami, comme il ne voulait pas d'enfant, et bien que à un moment donné, je lui ai parlé de ça, il ne voulait pas d'enfant. Donc, je ne peux pas lui faire un enfant dans le dos.
OK. On va tapoter.
Voilà.
Même si... ça me pèse d'avoir ce poids.
Même si ça me pèse d'avoir ce poids.
Et d'avoir ce ventre.
Et d'avoir ce ventre.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si je ne sais pas si je pourrais y arriver.
Même si je ne sais pas si je pourrais y arriver.
À cause de mon âge.
À cause de mon âge.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si j'arrive pas à perdre ce ventre.
Même si je n'arrive pas à perdre ce ventre.
Mais j'ai de bonnes raisons pour ne pas le perdre.
Mais j'ai de bonnes raisons pour ne pas le perdre.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si j'ai envie d'une seconde grossesse encore aujourd'hui.
Oui, mais enfin, c'est oublié ça. Même si j'ai envie d'une seconde grossesse, même aujourd'hui.
Clara, je parle à votre inconscient, même si vous ne pouvez plus le faire. Oui, oui. Une partie de vous a envie, vous comprenez? C'est resté.
Oui, oui.
Okay. Même si une partie de moi a encore envie d'une deuxième grossesse.
Même si une partie de moi a encore envie d'une deuxième grossesse.
Et je ne sais pas si je ne suis pas trop vieille.
Et je ne sais pas si je ne suis pas trop vieille.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si j'ai peur de devenir anorexique. Si je perds du poids. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai une partie de moi a envie d'une seconde grossesse. Mais je ne sais pas si je ne suis pas trop vieille. Je m'accepte totalement et profondément. Et je fais confiance à l'univers. Pour me dire ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Le dessus de la tête. Le début du sourcil. Ce ventre qui symbolise cette envie de deuxième grossesse. Coin de l'œil. J'étais si bien d'être enceinte. En dessous de l'œil, une partie de moi a toujours envie d'un enfant. En dessous de l'œil. Et je ne sais pas si je ne suis pas trop vieille. En dessous de la bouche. Clavicule. Et si je pouvais symboliser cette grossesse autrement qu'avec mon ventre? En dessous des bras. Et si ça pourrait être la grossesse d'un projet? En dessous des seins. Et si ça pouvait être la grossesse d'un enfant? Le dessus de la tête. Je me sens obligée de vivre avec mes 50 kilos. Je me demande si je pourrais perdre ces 50 kilos de trop. Coin de l'œil. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. En dessous de l'œil. Et si je pouvais y arriver facilement? En dessous de l'œil. Et si je pouvais y arriver facilement malgré mon âge? En dessous de la bouche. Je
choisis d'avoir confiance.
Clavicule. J'arrive pas à perdre ce ventre. En dessous des bras.
Parce que ça symbolise cette envie d'enfant.
Le dessus de la tête. Et si je pouvais faire le deuil de ce passé? Le début du sourcil, même si j'étais très bien pendant ma grossesse. Et que j'avais envie d'un deuxième enfant. En dessous de l'œil. Et si je pouvais faire le deuil de cette période-là? En dessous du nez. Et si je pouvais faire le deuil de la non-envie de mon compagnon? En dessous de la bouche. Je me pardonne de ne pas avoir eu de deuxième enfant. Clavicule. Et si je m'autorisais d'être enceinte de quelque chose? En dessous des bras. Et si je m'autorisais d'être enceinte d'un projet? Et si le projet pouvait être un enfant ou autre chose? Vous êtes de nouveau en train de partir, Clara, avec un correspondant?
Non.
Ok, le dessus de la tête. C'est parce que vous avez été coupé de nouveau. Le dessus de la tête. Et si je pouvais arriver à perdre ce ventre? Le début du sourcil. Je choisis de libérer ce ventre et tout ce qu'il a symbolisé. Je choisis de libérer tous ces kilos. Et tout ce qu'ils ont symbolisé. En dessous de l'œil. Je choisis de libérer toutes ces rondeurs dont je ne veux plus. En dessous de l'œil. Et si je veux être enceinte de quelque chose? Je choisis cette chose consciemment. Clavicule. Et si je pouvais y arriver? En dessous des bras. Et si je pouvais y arriver même à mon âge? en dessous des seins. Et si je pouvais perdre du poids et ne pas devenir anorexique?
Et si je pouvais perdre du poids et ne pas devenir anorexique?
Oui, au-dessus de la tête. Et si je pouvais perdre le poids et atteindre un poids idéal pour moi?
Et si je pouvais perdre du poids et atteindre un poids idéal pour moi.
Ok, le début du sourcil. J'ai envie de perdre ce ventre.
J'ai envie de perdre ce ventre.
Coin de l'œil. J'ai envie d'atteindre ce poids idéal pour moi.
J'ai envie d'atteindre ce poids idéal pour moi.
En dessous de j'ai envie d'atteindre la forme idéale pour moi.
J'ai envie d'atteindre la forme idéale pour moi.
En dessous du nez. Je choisis de me libérer de toutes ces vieilles programmations.
Je choisis de me libérer de toutes ces vieilles programmations.
En dessous de la bouche. Je choisis de me libérer de tout ce qui me pèse. Clavicule. Je choisis de me libérer de tout ce qui me pèse. En dessous des bras. J'ai envie d'y arriver. En dessous des seins. Je mérite d'y arriver.
Le
dessus de la tête. Je choisis d'y arriver. Ok, vous respirez profondément. Alors, Clara.
Oh, ça fait du bien ce tour-là.
Ah. Ah ben, ça fait du bien, oui, je vais y arriver, c'est clair.
Vous allez arriver à quoi, Clara?
Eh ben, à ce que j'arrive pas encore à visualiser. Parce que c'est, on va dire, encore lourd à visualiser parce que le chemin est un peu long. 3 kilos, ça me fait rigoler. Mais bon.
Alors, attendez.
En plus, je suis confiante. J'ai toujours été confiante, mais le problème, c'est trouver comment rompre le cercle vicieux, quoi. Et c'est, je pense que j'y suis, là.
Mais c'est pour ça que ça, moi, j'ai aimé quand on a dit la phrase « se libérer de toutes ces vieilles programmations ».
Voilà, c'est ça.
Si vous arrivez à vous dire ça, on n'a plus à porter le poids de toutes nos familles.
Oui.
Et oui, et donc en fait, moi, je porte un projet, mais alors j'ai une trouille pas possible pour le mettre en place.
Ok.
Mais ça, là je touche la peur. Parce que dans mon métier qui est insupportable à vivre, je suis compétente. Mmh. Et puis dans ce que je veux faire, qui je pense m'appartiendrait beaucoup mieux, eh ben, c'est difficile de basculer à...
Mais dans ce nouveau métier, qu'est-ce qui vous fait peur dans le nouveau métier? De ne pas être assez bien ou de ne pas être compétente?
Voilà, de comment s'y prendre. Et en fait, je sors d'un métier où on est dans le monde des affaires, le monde du chiffre, le monde de l'argent. Et en fait, où j'ai acquis des compétences, je suis assez compétente au niveau fiscal, juridique, tout ça. Et ce que je veux faire qui me passionnerait, c'est faire du coaching, de la psy. Quand j'avais 17 ans, j'aurais fait d'être psychanalyste. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire du coaching.
Ok.
Et pourquoi pas, si j'arrivais à maigrir, aider les gens à y arriver.
Eh oui. Alors,
encore faut-il que j'y arrive moi d'abord avant de pouvoir... Oui.
Alors, je veux savoir, vous m'avez dit, c'est lourd à visualiser.
Eh bien, ma perte de poids, hein, parce que, bon, même, j'ai beaucoup de mal à me voir sans mes kilos et sans mon ventre. Parce que là, c'est que, si vous me voyez, c'est comme si je suis à terme, que je vais accoucher dans les minutes qui viennent. Je suis à la clinique déjà, hein. Pour mettre cet enfant au monde, que j'ai déjà fait des tentatives en pensant que j'allais le perdre, et cet enfant, il est toujours accroché à moi.
Hein. Ah bon? Pourquoi?
Eh bien, parce que j'arrive pas à débloquer la situation. Mais bon, c'est vrai que si je choisis de libérer ce vent, peut-être que je n'avais pas choisi avant. Et qui me rassure aussi, hein.
Ah!
Peut-être que je suis rassurée dans des choses, des vieilles choses du passé, des vieilles programmations.
Okay.
Et ma mère était aussi en surpoids avec du ventre, et ma grand-mère maternelle, que j'ai adorée, était en surpoids avec du ventre.
Ah.
Et ces femmes qui ont eu plusieurs enfants, et moi je me suis dit, mais c'est peut-être la cause, c'est peut-être la grossesse et l'accouchement qui a fait que on a gardé du ventre. Alors, je ne sais pas, des questions que je me pose, je n'ai pas les réponses.
C'est fort à voir avec la féminité et la maternité. On va vite potapoter avant la fin. Alors, Nathalie, par rapport aux vieilles programmations, vous pensez qu'il y a quoi encore à... Est-ce que vous pouvez vous visualiser en train de perdre ce ventre?
Oui, je me vois pas. À une époque où je me sentais bien, je me visualise comme ça.
Ok. Donc vous ne voyez pas encore un avantage à garder ce ventre?
Ah non, je ne veux pas le garder.
Oui, parce que Clara explique bien que quelque part ce ventre la rassure, ça lui fait penser à sa mère et sa grand-mère qui avaient surpoids, qui avaient du ventre, qui avaient gardé ce ventre suite aux accouchements, comme si c'était une habitude familiale, quoi. Pas les deux à la fois.
Oui, mais ça doit être génétique chez toi. Et je pense que c'est pas génétique. Allô?
Oui, qui de quoi est génétique?
Non, génétique.
Oui, c'est qui?
Mon fils me dit des fois, maman, chez toi, ça doit être génétique.
Ah, d'accord.
Et moi, je pense que même si ma grand-mère et ma mère avaient été fortes avec du ventre, je pense pas que le problème est génétique.
Ok. Et Nathalie, qu'est-ce que vous disiez? Parce que vous avez parlé en même temps, donc j'ai pas pu prendre.
Ben, moi, justement, c'est que je veux pas ressembler à ma mère et à ma grand-mère.
Oui.
Qui ont ce ventre-là.
Ah.
Moi, c'est l'inverse, ça me rassure pas, ça me...
Non, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir le ventre de ma mère ni celui de ma grand-mère. Le problème, c'est que je l'ai.
Mm-hmm.
Et pour m'en sortir, c'est pas... La démarche, se libérer de ce ventre, de ce qui symbolise et tout. Je suis prête, moi, à le perdre.
Mais non, vous avez dit qu'il y a quelque chose qui vous rassurait dans ce ventre.
Alors bon, c'est le fait d'être enceinte, même symboliquement.
Ok.
C'est un état, finalement... J'ai eu une frousse, plus que frousse, d'accoucher, mais finalement, la grossesse, c'était un état de plénitude.
Ok. Donc, c'est comme si vous aviez encore peur d'accoucher maintenant, vous avez dit.
Peut-être, c'est pas inconcevable.
Ouais.
Que finalement, j'ai ce ventre qui me rassure parce que c'est la grossesse.
Oui.
Et alors que je suis au bord d'accoucher parce que vraiment, je suis ronde.
Oui.
Là, j'ai certainement une peur très profonde, très, très archaïque,
okay,
qui m'empêche d'accoucher.
Ok. Peut-être que vous n'aviez pas eu envie de sortir du ventre de votre mère aussi, hein, c'est possible.
Comme vous dites, hein, ouais. Moi j'ai eu du mal à accoucher de mon fils, mais
ouais.
On l'a dit par voyance, qu'en fait j'étais pratiquement noire quand je suis sortie du ventre de ma mère, c'est-à-dire que j'aurais pu mourir. Hein.
Ok.
Ça m'a pas été dit verbalement par des gens.
Ok, on va s'arrêter, Clara, sinon...
Ça m'a été dit par voyance.
Ok, Clara, on va tapoter.
Je ne sais pas quel degré de...
Clara, on va tapoter.
D'accord.
Même si c'est lourd à visualiser. De perdre ce ventre. Parce qu'il y a l'avantage à le garder. Parce qu'il me rassure. Et accoucher me stresse et m'angoisse. Je m'accepte totalement et profondément. Même si ce ventre me rassure. Et je me sentais rassurée quand j'étais dans le ventre de ma mère.
J'étais dans le ventre de ma mère.
Et c'est l'angoisse quand je suis sortie. Et c'est l'angoisse quand j'ai accouché. Je m'accepte totalement et profondément. Je préfère garder ce ventre. Parce que sans ce ventre, j'angoisse. Je pourrais revivre cette sortie du ventre de ma mère. Et j'étais toute noire presque. Pour moi, c'était l'enfer. Et garder ce ventre me rassure symboliquement. Mais quelque part, je suis bien née depuis des années. Tout ça, c'est terminé maintenant.
Tout ça, c'est terminé maintenant.
Je n'ai plus besoin de ce ventre pour me rassurer.
Je n'ai plus besoin de ce ventre pour me rassurer.
Je peux me rassurer autrement.
Autrement.
Vous êtes toujours sur le point karaté, hein, parce que même si je n'ai pas envie de ressembler à ma mère ni à ma grand-mère.
Même si je n'ai pas envie de ressembler à ma mère.
Le point karaté.
Grand-mère, pardon.
Je dis toujours le point karaté. Même si je ne veux pas ressembler à ma mère ni à ma grand-mère.
Même si je ne veux pas ressembler à ma mère ou à ma grand-mère.
Parce qu'elles ont ce ventre.
Parce qu'elles ont ce ventre.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Ok, le dessus de la tête. J'ai beaucoup de mal à me voir sans mon ventre. Le début du sourcil. Comme si un enfant était toujours accroché à moi. Coin de l'œil, comme si j'étais toujours accroché à ma mère. Vous êtes là?
Oui.
Ah oui, c'est parce que j'ai peur que le ACAR, dans quelques minutes, se soit terminé. Est-ce que Nathalie, vous êtes là? Nathalie, elle est partie. Le dessus de la tête.
Oui.
Cet enfant toujours accroché à moi. Coin de l'œil. Ce ventre me rassure. En soulet. Et si je pouvais me rassurer autrement qu'avec ce ventre? En dessous du nez.
Finalement, je me suis détachée du ventre de ma mère.
En dessous de la bouche. Et tout ça s'est passé il y a bien longtemps. Clavicule, mais ça a été l'enfer pour moi. En dessous des bras. Et quelque part, si je perds ce ventre. J'ai toujours cette angoisse. Le dessus de la tête.
Et si je pouvais me libérer de cette angoisse.
Coin de l'œil. Alors je pourrais être libérée de ce ventre. J'ai envie de me libérer de cette angoisse. En dessous du nez. J'ai envie de me rassurer autrement qu'avec ce ventre. Peut-être que ma mère et ma grand-mère avaient le même problème. Et j'ai envie de me libérer de ces vieilles programmations. En dessous des bras, je choisis de respirer amplement.
Je choisis de faire passer l'oxygène dans tout mon corps.
Début du sourcil. Je choisis de célébrer la vie. Coin de l'œil. Je suis vivante. Je choisis de me libérer de ce ventre. Du mien qui symbolise celui de ma mère. Je choisis de me libérer de ce ventre. Et vous respirez profondément. Allô?
Oui.
Comment vous vous sentez?
Mieux, nettement mieux. Mm-hmm. Sauf qu'il est encore là.
Bah, écoutez, on va devoir terminer la téléconférence, mais peut-être vous pouvez par vous-même un peu tapoter là-dessus.
Oui, tout à fait. Allô?
Oui, je vous entends toujours.
Oui, eh bien oui, tout à fait.
C'est une base de travail tout à fait intéressante
et importante.
Voilà. Et donc, je pense que de toute façon, Nathalie, vous êtes encore là? Ben non. Mais je pense que vous serez toutes les deux la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas s'il y aura des personnes d'autres qui vont se rajouter par rapport au thème, mais de toute façon, alors à mercredi prochain.
Avec grand plaisir et puis passez une bonne semaine.
Mais pareillement. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Oui, au revoir.
Allô? Oh, c'est bête, c'est encore coupé.